Bah ça c'était pas prévu un deuxième épisode. On a été trop bavarde, ça va pas du tout.
Mais oui, en plus on se disait ouais les zappings avec un petit truc mensuel rapide.
En fait on regarde trop de choses, ça va pas.
Ouais, c'est... Mais bon, là peut-être comme on l'a dit juste avant d'enregistrer, ça devrait être un épisode un peu plus court. On dit ça et on va se retrouver encore avec 1h30. Bienvenue sur les canapés de Popcorn Thérapie. Servez-vous une tasse de thé, café, infusion, ça dépend de l'heure de la journée, hein, en fonction de quand vous nous écoutez. Et c'est parti pour une session blabla autour des séries et cinéma.
Ici, pas de prise de tête ni de distinction entre cinéma d'auteur et cinéma commercial. On parle de tout ce qui nous plaît en toute simplicité. Et je voulais juste rebondir sur cette phrase parce que c'est vrai que j'ai retiré les choses que j'ai regardées et qui m'apprennent pas du tout plus. En tout cas, ce mois-ci, parce que je me suis dit, là, il y a trop de contenu, je vais pas parler des choses que j'ai détestées. Mais le mois prochain, j'en ai mis quelques-unes, puisqu'on enregistre déjà début mai, hein, malheureusement. J'ai déjà regardé des choses en mai que j'ai pas aimées, donc je voulais quand même parler parce que je trouve que c'est un scandale. Mais aujourd'hui, que des choses que j'aime.
Bah, moi, j'ai regardé pas tant de choses, mais j'ai tout aimé, je crois. On va revoir quand on va faire la liste, je ne sais pas, mais je crois que oui, j'ai quasiment tout aimé ce que j'ai regardé, donc c'est bien.
Très bien. Donc, vous l'aurez compris au titre, aujourd'hui, on fait la suite de notre zapping d'avril, mais cette fois-ci spéciale série, puisque voilà, ça devait être trop long, on ne voulait pas vous donner un épisode de 3 heures. Donc, normalement, on n'a pas beaucoup de séries, donc ça devrait être rapide, mais comme on est très bavarde, on ne garantit rien.
Ouais, on va voir. Et donc, on commence sur Netflix. On va peut-être commencer avec toi, parce que tu as regardé un petit peu plus de choses que moi sur Netflix.
Oui, donc je vais commencer par vous parler d'une série, pas plus particulièrement de la saison 4 de cette série. Il s'agit de You. J'avais beaucoup, beaucoup aimé la saison 1 et 2. Un petit peu moins la 3, mais tu te laisses quand même prendre par le truc. J'avais même lu d'ailleurs le livre dont la saison 1 était issue, que j'avais... Alors, on va pas dire que j'avais bien aimé ou pas bien aimé le livre. En fait, il est assez particulier parce que il est un peu dans une ambiance différente. Et puis, je pense que, enfin, clairement, pour ceux qui n'ont jamais vu You, on suit un sociopathe, hein, qui stalk les nanas qui l'apprécient, qui va au point d'en tuer certaines, sans spoiler l'intrigue. Et en fait, comme c'est un acteur qu'on apprécie, c'était quand même un acteur de Gossip Girl, donc voilà, on a quand même je trouve qu'il est présenté un petit peu comme pas le héros, mais c'est vrai que même si on le déteste, on aime le détester, et puis je trouve que il est glamourisé, on va dire. Il est pas, on dit pas que ce qui est bien que ce qu'il fait, mais il est quand même glamourisé. Ouais. Voilà, faut avouer ce qu'il est, hein. Et dans le livre, comme on n'a pas cette image de lui, ça donne pas la même vibe. Et puis la fin est différente. On avait parlé, on avait fait un live les livres issus de films et de séries. Je sais pas si tu te souviens sur Insta.
Oui, l'inverse, les séries issues de.
Ouais, c'est ça. Et on avait parlé des bouquins qu'on avait et tout. Et ben voilà, donc je l'avais lu à ce moment-là. Et donc bon, là voilà, est sortie la saison 4. Alors en deux parties. Alors la première partie est sortie en février, j'en parle que maintenant parce que moi j'ai attendu que les deux parties soient toutes sorties. Même si sur le fond j'aime bien le principe d'avoir une première partie, voilà, quelques épisodes, la moitié des épisodes, et un mois après l'autre moitié des épisodes. Je trouve qu'au final c'est un bon compromis entre tous les épisodes d'un coup et t'as binge-watché la série et au bout d'un mois t'as déjà oublié tout ce que t'as vu, et un épisode par semaine ou d'une semaine à l'autre tu peux zapper ce qui s'est passé comme intrigue. Là, je trouvais que c'était stylé, mais je sais pas, j'étais pas... En fait, c'était pas vraiment la série que j'attendais avec impatience, donc j'ai pris du temps avant de la regarder, et du coup, bah, j'ai regardé quand tout était sorti finalement, sans trop le vouloir. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me lancer au début. En fait, c'est un style très, très différent. Notre héros se retrouve à Londres, il se cache un peu, il essaie de se faire une nouvelle vie, il rencontre plein de gens un peu dans un milieu bourge, etc. Il y a des meurtres qui se passent, mais il essaye de voir... Enfin, il est un peu mêlé sans y être mêlé. C'est un peu particulier. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à rentrer dedans. Je regardais les épisodes, limite un épisode par semaine, quoi. Et j'avais du mal à regarder la suite. Et c'est Clémence, à qui je fais un petit coucou, qui sur notre Discord, là, de PopT, a écrit un message en disant que la deuxième partie était pépite, était géniale. Et je me suis dit, bon, faut vraiment que je m'accroche. J'ai regardé 3 saisons de cette série. Si vraiment la fin est bien, la fin, je crois qu'il y a eu encore une saison 5 de prévu, mais si vraiment la suite est bien, faut que je m'accroche. Et effectivement, la deuxième partie de saison est extraordinaire. Elle vaut vraiment le coup. Ça aborde des thématiques vraiment sympas. On voit le personnage totalement différemment, on comprend un peu mieux du coup la saison 1, la saison 2, enfin vraiment il y a quelque chose qui s'y passe, il y a un genre de déclencheur on va dire, et cette deuxième partie de saison 4 vaut absolument le coup. Donc si vous avez vu comme moi la saison 1, 2, 3, que vous hésitiez la 4, vous avez commencé, vous vous êtes dit bof, franchement accrochez-vous et regardez la deuxième partie parce que vous allez être emballé, je vous le promets.
Ok, moi j'ai jamais regardé cette série, j'en ai entendu parler assez tard, je pense que bah justement quand la saison 4 là, est sortie, je pense que j'avais dû voir quand la saison 3 était sortie, pareil, les gens en parlaient. Après j'ai vu, je pense que t'en as un peu parlé, mais j'ai eu quand même des retours assez contrastés quoi, entre ceux qui dénoncent vraiment le côté problématique de glamouriser, comme tu dis, une masculinité toxique quoi, en gros, mais bon, après, je suis pas sûre que je me lancerai dans, de toute façon, une série où il y a déjà 4 saisons de sortie. Il y a peu de chances que je me lance. Mais j'aime bien, par contre, ce que, comme tu dis, les rythmes en 2 parties avec une pause au milieu. Je trouve que j'aime bien aussi ce principe. Donc, c'est cool qu'ils le fassent de plus en plus, je trouve. Hein, ça devient de plus en plus le cas.
Sur Netflix, en tout cas. Ouais. Je l'ai pas vu ailleurs, je crois pas. Mais sur Netflix, là, il y a plusieurs séries où ils font ça.
Ouais, c'est vrai. Non, j'ai dit il y a ça, mais en fait, c'est sur Netflix aussi. Donc... alors, moi, c'est une saison 2 dont je vais parler sur Netflix. C'est la saison 2 de Shadow and Bone. Série de fantasy, adaptée aussi de romans, de livres. J'avais découvert l'univers avec la saison 1 et après la saison 1, j'avais lu du coup la trilogie. Alors parce que c'est un peu compliqué le Grishaverse là comme ils disent, donc c'est l'univers dans lequel se passent tous ces romans, parce qu'en gros il y a une trilogie qui s'appelle Grisha, il y a une duologie qui s'appelle Sticks of Crows et il y a encore 2 autres livres, je sais plus comment ils s'appellent, mais enfin bref.
Ah ouais.
et en fait la trilogie Grisha et Sticks of Crows, c'est avec des héros différents et Shadow and Bone, ça combine les deux en gros. Ça suit l'intrigue de la trilogie Grisha en rajoutant des intrigues qui sont inédites là pour le coup, alors qu'ils sont inspirés de la duologie Six of Crows, mais du coup il y a c'est une adaptation un peu particulière. Et du coup j'ai lu juste Grisha, même si tout le monde dit que Six of Crows c'est le mieux, donc je vais m'y mettre, mais c'est vrai que dans la série, que ce soit saison 1 ou saison 2, les Crows, donc les personnages de Six of Crows, c'est les plus intéressants et c'est le plus fun. J'avais bien aimé la saison 1 et j'avais bien aimé la trilogie. La saison 2, je suis un petit peu perplexe parce que le choix d'adaptation est un peu étrange. En fait, ça reprend le principe de la saison 1 de mélanger, comme je disais, Grisha et Crows, sauf que c'est une trilogie normalement, la série, la série de livres. La saison 1 c'était juste le tome 1, et là la saison 2 c'est à la fois le tome 2 et 3, donc beaucoup beaucoup de choses condensées et raccourcies avec des grosses coupes. Et même si ça faisait plus d'un an que j'avais lu le bouquin, je m'en souvenais quand même, et donc j'étais un petit peu perturbée du rythme, j'ai trouvé ça très bizarre et du coup presque dur à suivre, même si je connaissais déjà l'histoire. Donc un peu perturbée par ça, et donc j'ai moins aimé la saison 2 que la saison 1, même s'il y a toujours des passages sympas, que l'univers est toujours hyper intéressant, surtout quand on aime bien la fantasy. C'est une fantasy un peu différente, c'est pas Moyen-Âge, c'est un peu plus... c'est un peu plus moderne, entre guillemets, avec une vibe un peu russe. Enfin bref, c'est très... L'univers est très très chouette, la magie est très chouette aussi. Mais voilà, un peu plus mitigé sur la saison 2, mais ça annonce une suite. Je suis un peu dubitative de la manière dont ça annonce la suite. Mais je serais quand même intéressée de voir, et je sais qu'ils vont faire a priori une série uniquement sur les Crows. Et donc là, par contre, je suis vraiment intéressée par ça, et je vais lire les livres entre-temps, je pense. Enfin, j'ai essayé en tout cas. Et donc, ouais, sympa, mais un peu déçue quand même, la saison 2.
Mais du coup, c'est étrange s'ils veulent faire une suite de ne pas avoir fait livre 2 et ensuite livre 3, quoi.
Je sais qu'il y a pas mal de lecteurs qui ont trouvé que le livre 2 traînait trop, enfin qu'il se passait pas assez de choses. Moi, je l'avais trouvé très sympa. Mais voilà, après, en fait, on a l'impression qu'ils n'ont pas réussi à choisir entre se concentrer sur l'histoire Grisha, donc l'histoire avec le personnage principal, Alina, et le Darkling. Alors oui, c'est vrai que je n'ai pas parlé du casting, mais un des gros intérêts de Shadow and Bone, c'est Ben Barnes qui joue le Darkling, le grand méchant de l'histoire, qui est comme dit certaines amies, qui a un beau costume, c'est pas. Mais bien sûr, on suit Shadow and Bone pour les costumes. Mais du coup, c'est ils sont très très sexy, très beaux, voilà. Et le Darkling, et voilà, c'est le dark sexy, tu vois. Donc et du coup, il y a cette histoire là, mais en même temps, c'est une histoire. Enfin, pas mal de gens, de fans de cet univers, sont plus fans des Crows. Donc du coup, ils ont pas voulu les mettre totalement à part, mais en les intégrant, ça. Pour moi, c'était bien fait dans la saison 1. C'est un peu plus bancal dans la saison 2. Mais après, je suis quand même contente. Il y a des personnages de la trilogie qui apparaissent, là, notamment Nicolas, qui est un de mes personnages préférés et qui est assez cool, même si j'aurais aimé qu'il soit encore un peu plus charismatique. Mais donc voilà, ça reste quand même un univers sympa, une adaptation. On sent qu'il, même si donc l'autrice est pas mal impliquée dans la série, donc même si il s'éloigne un peu de la source, on sent qu'il y a quand même un vrai enthousiasme pour l'univers, et j'ai plutôt l'impression que c'est des choix de production et de... Ils ont peur, en fait, pour pas annuler un truc avant que ce soit fini, et j'ai l'impression que c'est plutôt ça. C'est genre, ils condensent les choses pour se dire si jamais c'est annulé après, parce que ça marche bien, mais c'est pas non plus un hit de fou. Donc, sachant la politique de Netflix, je pense qu'ils ont un peu peur. Ils se disent au moins on est allé au bout de la trilogie et voilà. Mais bon, mais ils annoncent.
Moi, ils me l'ont jamais proposé.
Ouais. De quoi?
Sur Netflix, on me l'a jamais proposé sur Netflix. J'ai jamais vu passer.
Non. Ouais, moi c'est clairement je suis clairement le public cible de la matrice de fantasy, littérature young adult. Voilà,
on me propose que des comédies romantiques.
On se demande pourquoi.
Oui, non, mais je sais que je regarde beaucoup, mais je trouve ça quand même dommage de pas non plus. Enfin, après, je suis obligée des fois d'aller regarder sur le compte de Thibaut ou dans les tops, tu sais, quand tu te mets dans les films ou dans les séries, quand tu regardes dans les top 10, de voir ce qui se fait et qu'on me propose pas. Bon, après, non, ça va. Je me plains, mais Netflix, en vrai, c'est pas le pire à ce niveau-là.
Ouais, mais ça pourrait te plaire, Shadow and Bone, parce que, enfin, pour le côté romantique, justement, il y a quand même un axe, enfin, ça tourne beaucoup autour des relations entre les personnages, d'un triangle amoureux, enfin, il y a beaucoup de...
Ah, tu sais comment parler.
Ouais, et dans la saison 2, il y a aussi un des nouveaux personnages que je connaissais pas, qui est du côté des Crows, et il y a un couple qui est très très mignon, donc ouais, c'est...
Ah, bah écoute, tu sais que c'est grâce à l'histoire d'amour de Yennefer et que j'ai regardé The Witcher. Exactement. Thibaut regardait, et puis je sais plus, à un moment il m'a juste dit, je lui dis mais qu'est-ce qu'il fait là? Il me fait il va bientôt retrouver, je pense qu'il va bientôt retrouver Yennefer, il pense qu'elle est morte. Je lui dis mais sois amoureux, il me dit oui. Je suis ils sont amoureux, ils pensent qu'elle est morte et va la retrouver un raton. Du coup, c'est comme ça que j'ai regardé, voilà.
En plus, l'histoire d'amour Geralt Yennefer, c'est quand même sacrément épique, donc.
Bah ouais. Mais après, j'aime la série pour autre chose, hein. C'est pas que pour ça. Mais c'est vrai que des fois, souvent, pour que j'accroche à une série, il me faut un petit truc, que ce soit une histoire d'amour ou un acteur que j'apprécie ou vraiment une intrigue, tu vois, par exemple, si je regarde une série un peu thriller ou policière, il faut que l'intrigue de départ m'intrigue beaucoup, m'accroche. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à commencer à me mettre à une série où je connais rien du tout, quoi. Où vraiment on me dit « Ah, cette série est bien, regarde !» J'ai un peu de mal. Mais bon. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai eu beaucoup de mal à commencer la prochaine série, qui je sais, en plus, je savais qu'elle allait me plaire. Effectivement, j'adore, je suis totalement accro. Il s'agit de The Crown.
Alors tu disais tout à l'heure, elle n'est pas perdue, hein, parce que c'est...
Ouais, ouais, grave. Ouais, mais c'est sur Netflix, alors...
Les polices, et puis, je ne sais pas si on peut vraiment parler de pas perdue. 6 que... À part quand c'est une série qui est finie, mais bon.
Oui, c'est ça. Il y a les saisons 6, je crois, qui sort en 2024. Ouais, je crois que c'est
6. 6, ouais.
Ouais, parce que j'ai calculé, il y avait 5 saisons, 10 épisodes par saison, 1 heure par épisode. Je me suis dit, ok, j'ai 50 heures de The Crown à rattraper. Comment je vais pouvoir caler ça avant que la saison 6 ne sorte cette année. Donc là, j'ai regardé la saison 1 et 2. Je crois qu'il me manque que le dernier épisode de la saison 2. Donc, mois d'avril a été très très intense à ce niveau-là. Ouais.
Ah bah quand on s'y met dans The Crown.
Ah ouais, c'est ça. Mmh.
Et pourtant, c'est tellement immersif, je trouve qu'on est pris dans le.
Ouais. Ouais. Et en fait, pourtant, tu vois, au départ, je me suis dit, je vais pas trop accrocher. Enfin, j'ai pas trop accroché. Si, je sais que j'ai accroché, mais un peu chaque épisode a un peu sa structure, son histoire. Ça se suit pas trop d'épisode en épisode, à part le fait qu'ils grandissent. Et du coup, je me suis dit, bon, pour déclencher l'épisode d'après, il y a pas de cliffhanger, il y a pas de... Donc je me suis dit, je vais peut-être avoir du mal à ça, quand j'ai commencé à regarder les 3-4 épisodes au début. Et puis en fait, non, parce que t'adores les personnages, t'as envie de les suivre, t'adores l'ambiance, c'est hyper immersif. Donc, une fois que t'es lancé, t'es pris dedans, quoi. Et donc pour ceux qui n'ont pas du tout regardé, la saison 1 et la saison 2, c'est quand la reine Elisabeth accède au pouvoir, et c'est ses débuts en tant que jeune reine. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est de voir tout le côté un peu politique, quand elle rencontre les Kennedy, toutes les discussions avec Winston Churchill, certains passages de l'histoire que je ne connaissais absolument pas, donc je vais pas forcément dévoiler pour pas spoiler, mais il y a certains passages que je ne connaissais pas du tout, et tu découvres des choses... J'ai vraiment vraiment accroché à ces deux saisons. Le fait qu'il y ait Matt Smith, bien évidemment, ça aide aussi. je trouve que Elisabeth, l'actrice Claire Foy, ouais c'est ça, est excellente. Elle fait vraiment une super reine. D'un côté, tu es émue, tu compatis. De l'autre, elle a un côté quand même très froid aussi à des moments. Je trouve qu'elle joue parfaitement ce rôle-là. Et puis en fait, j'étais en train de lire en parallèle le livre du prince Harry, et donc c'était marrant de voir aussi cette vision que lui a de sa grand-mère dans le livre et de la voir jeune. Et ça colle tout à fait, hein, vraiment la manière dont il parle de sa grand-mère et quand tu la vois là, j'étais vraiment dans ma phase famille royale à fond. Et ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de voir les saisons ensuite. Je sais que ma maman m'a dit qu'elle avait moins aimé les saisons d'après. Elle m'a dit que c'est fait plus un peu voyeurisme, ça tourne beaucoup autour de Diana, etc.
Les toutes dernières, celles du milieu, il y a quand même des passages sympas. Ouais.
Ok. Bon, donc j'ai hâte de voir la suite et puis je vous tiendrai au courant du coup des autres saisons.
Bah ouais, d'avoir ton avis sur la suite, bah surtout sur les changements de casting, puisque toutes les deux saisons on change de casting pour coller à l'âge des personnages. Donc
moi ça, au début, ça me faisait un peu peur.
Ouais, moi aussi j'étais un peu, parce qu'on s'attache tellement en plus à ce casting que ça demande toujours un petit temps d'adaptation, mais bon, enfin tu vas en plus tu vas passer de Matt Smith à Toby Mac. Ah, Mackenzie, j'arrive jamais à me souvenir de son nom. Et qu'on a vu dans Outlander, qui fait le méchant
Ah ouais, ça va être dur là.
Ouais, mais moi j'adore cet acteur, mais
oui, j'aime beaucoup cet acteur, mais comme en fait, Philippe, il a quand même pas un rôle, enfin, il a pas un rôle, c'est sa personnalité, hein, mais c'est pas la personne la plus aimante, aimable possible. Mm-hmm. Donc, le fait qu'il y ait Matt Smith, que j'appréciais beaucoup et qui d'habitude joue, non, en fait, j'allais dire d'habitude joue les rôles des gentils, mais non.
Tobias Menzies, donc c'était pas Toby, c'est Tobias Menzies.
Ah, d'accord. Oui, je vois, non, mais je vois qui c'est, mais, ouais. Ah, je sais pas. J'ai hâte quand même de voir. Mais après, tu vois, au début, ça me faisait peur, ce que je disais, mais au final, avec House of the Dragon, quand ils ont changé de casting, effectivement, ça te prend un tout petit temps d'adaptation, mais je trouve on s'y fait vite. Et au final, c'est peut-être une bonne chose, parce que c'est vrai que sur 5 saisons, le fait d'avoir aussi des acteurs différents, ça dynamise un petit peu la série, je pense. Et ça apporte du neuf, donc ça me faisait peur. Et puis finalement, avec le recul, je me suis dit, en fait, c'est pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Ouais, je pense. Et puis Olivia Colman, elle est géniale. Donc,
Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup.
C'est cool que tu sois mis à The Crown. On va pouvoir continuer à en discuter les prochains mois.
Ouais.
Bah, en attendant, on va passer sur Disney+, avec la première série du mois qu'on a vue toutes les deux. Évidemment, oui. The Mandalorian. D'ailleurs, j'annonce, en avril sur Disney+, je n'ai regardé que du Star Wars, hein, comme ça vous
c'est
le
vrai,
savez.
C'est vrai, ça.
Comme ça vous le savez. Mais bon, The Mandalorian, évidemment, qu'on attendait beaucoup. J'allais dire, on aurait pu... D'habitude, c'est vrai que sur les contenus Star Wars, on peut faire des épisodes entièrement consacrés aux séries. Là, j'avoue que cette saison de Mandalorian, je ne suis pas mécontente qu'on en parle juste en zapping, parce que je ne sais pas si j'aurais eu la motivation de faire un épisode complet dessus. Je n'ai pas détesté. Hein. C'était fun. Il y avait des très chouettes épisodes. Mais j'ai été un peu déçue dans l'ensemble. J'ai pas été aussi attachée émotionnellement que dans les deux premières saisons. Donc là, on est dans la saison 3. Même s'il y a des choses que j'ai beaucoup aimées, que visuellement, par contre, je trouve qu'ils ont fait un gap, je trouve, qui a été franchi. Je trouve que c'est très, très beau. Visuellement, il y a beaucoup moins des petits défauts qu'on avait dans les premières saisons. Ils savent bien mieux utiliser le volume, etc. Et du coup, je trouve que ça rend très, très bien. Mais c'est vrai que... Alors, peut-être que j'avais encore Andor trop frais dans la tête et que j'ai eu un peu de mal à me remettre dans l'ambiance Mandalorian par rapport à quelque chose qui était complètement différent. Mais mitigé, je sais pas. Je crois que c'est un peu ton cas aussi, non?
Ouais, alors moi, je t'avoue, même quelque chose, je n'ai même pas regardé le dernier épisode.
Ah, ok, d'accord.
Ouais, la honte. En fait... J'ai mis du temps à commencer parce que j'étais en voyage, donc je pouvais pas regarder... en fait, il y avait pas Disney+, au Vietnam, donc je n'ai pas pu... Au départ, je pensais vraiment regarder les épisodes là-bas le soir avant de me coucher, et en fait, il n'y a pas Disney+, au Vietnam, donc je n'ai pas pu regarder. Et donc, quand je suis rentrée, j'avais pas mal d'épisodes de retard, et j'ai tout binge-watché d'un coup, je crois, les 3 ou 4 premiers. Et moi, j'ai adoré ces 3-4 premiers, de les regarder d'un coup. Je pense parce que, effectivement, ils étaient un peu inégaux, les épisodes. Visuellement, ils étaient sublimes. Ils se suivaient un peu au niveau de l'histoire, quand même. Et du coup, le fait de les regarder d'un coup, j'étais dedans. Mon attention était captée, je trouvais ça magnifique, j'étais vraiment immergée dans le truc.
Ouais, je pense que le bon l'emporte sur les passages moins cool. C'est parce que,
exactement.
Par exemple, je me souviens que le premier épisode, j'ai trouvé bof, par contre, le deuxième, j'ai trouvé super, quoi.
Ouais,
du
c'est
coup,
ça,
de les enchaîner,
en fait, les enchaîner, tu dis juste la vie globale, et je me rappelle qu'on en avait parlé par message vocal, la vie globale est positive, alors que les autres années, j'avais regardé les autres saisons, épisode par épisode, semaine après semaine, et en fait, effectivement, c'est un avantage dans le sens où t'as le temps de processer un petit peu ton épisode en disant, il y avait ça, c'était trop bien, mais qu'est-ce qui va se passer après et tout. Et ça, c'était top. Mais quand un épisode est bof, et bah, pour se remettre dedans, c'est difficile. Alors que là, effectivement, le fait de tous les regarder, je suis incapable de dire, il se passe ça dans le premier, il se passe ça dans le deuxième, il se passe ça dans le troisième. Malheureusement, j'ai pas eu le temps non plus de tout processer, de penser aux détails, etc. Mais j'ai un avis hyper positif, alors que, effectivement, j'étais un peu déçue par certains. Après, quand je me suis remis à regarder tout seul, je crois que c'était l'épisode où... mon dernier épisode que j'ai regardé, c'est celui, sans trop spoiler, sur la réhabilitation des...
Ouais.
Des personnages de l'Empire. Ouais, des impériaux. Et j'ai trouvé l'épisode super. Je me suis dit, j'aime beaucoup cette direction, le fait qu'il parle de ça et tout, je trouve ça top. Mais en fait, je me suis dit, on repart comme dans Boba, où dans Boba, on voyait plus Boba et c'était Mando à fond. Là, on voit plus Mando et il te parle que des impériaux. Et en fait, je me suis dit, ils ont vraiment un problème de rythme dans ce Star Wars Universe série.
De cohérence.
Série. De ouais. cohérence, de faire... Alors que là où Marvel, pour moi, réussit, ils ont une série Loki, ils ont une série WandaVision, ils ont une série Hawkeye. Alors, il y a quelques petits personnages qui viennent faire des petites apparitions, mais ils prennent pas le pas sur le personnage principal. Et c'est ce que je reproche aussi à la fin de la saison de Mandalorian, toujours sans trop spoiler, où Mando arrive au second plan, et même si les autres persos qui sont mis en avant, dont la perso qui est mise en avant, est extraordinaire et que je l'adore et que c'est une de mes persos préférées, je me dis, on est dans quelle série là? C'est problématique, on voyait plus Mando dans Boba, et là on voit plus quelqu'un d'autre que dans Mando, enfin... J'ai un peu de mal avec tout ça, et du coup, j'ai pas regardé le dernier épisode parce que l'avant-dernier m'a un peu déçue. Bon, là, je spoil un tout petit peu pour ceux qui l'ont vu. Je vais essayer de te faire avec des noms de code pour ceux qui l'ont pas vu. Quand les Mandaloriens se battent et que à un moment il y en a un qui se retrouve tout seul avec les autres et qui arrive à battre tous les Stormtroopers et tout machin sans aucun souci, et que là il y a les personnages en rouge qui arrivent. Enfin, je dis ça pour pas spoiler, hein. Les personnages en rouge qui arrivent. Et là, en 30 secondes, le mec capote et les personnages en rouge, ils sont venus, ils l'ont battu, ils sont repartis. Et là, je me dis, oh non, vous allez encore nous refaire du fan service à popper un personnage juste pour dire, oh regardez, il y a eux, c'est trop cool, et qu'il y ait aucune cohérence dans l'intrigue, aucune cohérence, on les revire comme ça, on sait même pas d'où ils viennent, pourquoi ils sont arrivés, pourquoi ils repartent, et puis le personnage qui était là super badass, super fort, en deux coups il se fait tuer. Enfin, il y avait quand même comme ça des choses dans le dernier épisode qui m'ont un peu choquée, et donc j'ai eu la flemme de regarder le troisième. Et après, je suis repartie en voyage. Et je me suis dit, bon, c'est quand même Mandalorian, je vais pas le regarder sur mon iPad dans l'avion ou à l'hôtel. Enfin, je vais attendre de revenir. Et puis quand je suis revenue, il y avait tellement d'autres trucs à regarder que voilà. Mais je vais le regarder, hein. J'y tiens quand même parce que c'est une série que j'apprécie énormément quand même si j'étais un peu déçue.
Non, en plus, bon, le dernier, bon, je pense pas qu'il te fera changer d'avis sur la série, hein. Il est dans la même vibe, même s'il se passe pas mal de choses. Enfin, en fait, il est très... Ouais, c'est un épisode d'action, quoi. Mais par contre, je trouve qu'il est un peu symptomatique de ce que tu dis. Enfin, en fait, moi, je trouve qu'un des gros défauts, c'est que ça manquait d'arc pour les personnages et de logique dans qu'est-ce qu'ils essayent de nous hyper pour des éléments. Et en fait, c'est un peu jeté à la poubelle ou alors c'est résolu de manière un peu trop rapide. Ce qu'ils n'avaient pas trop fait, genre par exemple, la saison 2, voilà, tout tournait autour de Grogu.
La saison 2, c'était ma préférée, elle était géniale.
Ouais, ben moi j'avais aimé la saison 1 pour la manière dont ça nous mettait dans l'ambiance, dans les personnages, etc. Il y avait des très bons épisodes. La saison 2, j'avais trouvé que on était accrochés et ça a nous amené un climax émotionnel à la fin qui était hyper fort. Et en fait, pour moi, je trouve que c'est ce qu'ils ont fait avec Boba qui a gâché la saison 3 de Mandalorian, hein, je pense, un petit peu. Enfin, en fait, c'est la manière dont ils ont cassé cette manière d'écrire avec Boba qui fait que la saison 3 de Mandalorian s'en ressent et que ça reste un peu dans cette même vibe où on ne sait pas trop où est-ce qu'ils veulent aller avec Favreau et Filoni. Et puis avec les annonces qu'on a eues sur... Enfin, en fait... C'est entre, on sait pas trop où on va, et en même temps, on sait où on va, mais du coup, on sacrifie ce qu'il y a entre temps. Ça fait un peu ça. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu dur comme, maintenant qu'on sait que Filoni va avoir son film, qui va rassembler un peu le Mandoverse avec toutes les séries qui vont se retrouver dans ce film façon Avengers, avec Ahsoka et compagnie, on a l'impression que Mando, du coup, il a juste à attendre d'arriver à ce film et qu'il a plus d'intrigue à lui et que tout tourne effectivement autour d'un autre personnage et que lui, je l'ai trouvé même un peu bête, quoi, dans cette saison par rapport au chemin qu'il avait fait dans les saisons précédentes. Donc, un peu décevant, même s'il y a des côtés très cool et voilà. On n'a plus Ludwig Göransson à la musique aussi. Je trouve que ça se ressent. Si la musique est bien. La musique est bien, mais on n'a pas, c'est pas le même punch que ce qu'on avait avec Göransson, quoi. Donc,
on sait pourquoi ils ont changé.
Bon, je pense qu'il est occupé à autre chose, mais je pense que c'est plutôt, je pense que c'est genre de compositeur qui là en plus commence à vraiment exploser, et que ça doit l'ennuyer à sa place, je comprendrais aussi que ça doit l'ennuyer de faire toujours la même chose, parce qu'au final, il n'y avait pas de choses énormément nouvelles dans la saison 2 par rapport à la saison 1, donc la saison 3, c'est pareil. Bon, je reste hypée par Ahsoka qui arrive.
Tellement.
Voilà. La bande-annonce m'a un peu rassurée parce que c'est vrai que j'avais mais je reste quand même hypée de manière prudente parce que...
Oui, on sait que Mando, Boba, reste... n'importe qui va arriver, va prendre la première place.
J'espère pas, mais...
Non, j'espère pas non plus.
J'espère que, Filoni débarrassée de Favreau, ça rendra mieux.
Le débarrasser de Favreau.
je suis pas une grande fan. Même si j'admire ce qu'il a apporté à Star Wars pour cette nouvelle. Je trouve que c'est très cool. Au niveau de l'écriture, il y a mieux.
Je comprends. Ouais, Ahsoka, moi aussi, je l'attends avec impatience parce que du coup, et ça fait une belle transition, j'ai enfin regardé Star Wars Rebelle.
Ah!
Et oui.
Comment tu as été pour Ahsoka? Regardez Rebelle.
Ah ouais, non, mais là, à fond. Mais en vrai, En fait, moi, j'avais regardé The Clone Wars. En fait, j'avais regardé le film The Clone Wars il y a très longtemps, à sa sortie. J'avais beaucoup aimé, mais je suis pas une grande fan d'animation de manière générale, en fait. Et du coup, j'avais un peu de mal à m'accrocher au personnage. J'avais commencé à regarder les saisons de The Clone Wars, et en fait, c'était trop des quêtes annexes, trop d'épisodes indépendants. Et moi, j'ai un petit peu de mal avec ça au niveau des séries, vous l'aurez compris. Et du coup, je me suis quand même remotivée à regarder The Clone Wars quand Mando est arrivé, Boba, etc. Parce que je savais qu'il y aurait des petits, bah, des personnages qui se retrouveraient, etc. Et je sais pas si tu te souviens, tu m'avais fait une liste des épisodes et des arcs à regarder, environ les épisodes indépendants, pas forcément très intéressants et importants. Et donc The Clone Wars, je l'ai regardé comme ça avec les recettes de Marjo, les conseils de Marjo. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur le Discord si vous voulez regarder The Clone Wars ou Rebelle en express avant Ahsoka. Demandez à Marjo, elle va vous faire le listing.
Faut que je le retrouve, mais ouais. Faut que...
Ouais.
Parce qu'on doit être toujours quelque part cette liste, mais ouais.
Et du coup, j'ai enchaîné sur Rebelle après, puisque c'est la suite. Et là, ça a été un coup de foudre sur cette série. Franchement, j'ai adoré les persos auxquels je m'y attache, beaucoup, je me suis beaucoup attachée, j'ai adoré les histoires, même les quêtes annexes au final elles me plaisent aussi, après ça se suit beaucoup plus hein, je trouve que The Clone Wars. En fait, il y a des excellents épisodes dans The Clone Wars et des excellentes saisons dans The Clone Wars, surtout les dernières, mais je les trouve un peu plus irréguliers. Ouais, en dents de scie. Alors que Star Wars Rebels, pour moi, c'est une réussite de A à Z. Tout est bon.
Ça se tient.
Après, c'est plus court, hein. Mais ouais. Ça se tient, voilà, c'est ça. Et en fait, ouais, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Beaucoup d'émotions. Et bah, Ahsoka, on sait que ça va être la suite. On va retrouver certains personnages en live. Et donc, du coup, je suis hyper hypée. J'ai vraiment hâte. Enfin, j'ai vu le casting. Pour moi, il m'emballe à fond. Et ouais, ça a été vraiment une très très belle découverte et je suis déçue parce que j'ai l'impression que moi la première hein, mais beaucoup de monde n'a pas vu cette série là. On parle plus de The Clone Wars que de Star Wars Rebels et c'est dommage parce que c'est vraiment une grande grande réussite et si vous avez aimé bah les séries comme The Mandalorian ou Boba Fett ou en tout cas cet univers là, cette timeline là, n'hésitez vraiment pas à regarder Star Wars Rebels parce que c'est super.
Ouais, et faut pas s'arrêter à la première impression que donnent les premiers épisodes où c'est ça fait assez orienté jeune public.
Ouais.
Mais derrière ça parce que effectivement il y a des petits côtés un peu goofy comme on dit, enfin un peu drôle, oui. Marrant, mais l'histoire derrière et les personnages, la manière dont sont écrits les personnages, c'est vraiment très très profond, très bien mené et il y a des passages qui sont hyper émouvants. Et ouais, moi je suis d'accord, Rebelle c'est super. C'est l'écriture de Rebelle qui me donne de l'espoir pour Ahsoka. Mais voilà, à voir.
Oui, parce que c'est que Filoni tout seul, Rebelle.
Bah après il a une équipe.
Oui, il a une équipe, mais c'était il y avait pas Favreau.
Non, Favreau était pas dans Star Wars.
Ouais, c'est ça.
Et mine de rien, Rebelle c'est la première. Production Disney, qui a été faite avec le rachat de Star Wars par Disney. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça a été un peu boudé, parce que tout le monde dit Disney, machin. Et non, je pense que c'est un peu une preuve que ça peut être très, très quali, apporter aussi des choses à l'univers, des choses nouvelles, tout en étant très Star Wars, quoi. Donc, ouais, non, Rebelle, c'est trop cool. Et puis, bah, ça vous permet de commencer à vous hyper pour le grand méchant qui est teasé dans Mandalorian, donc je dirais ouais. Pour ceux qui sont pas à jour, mais oui, c'est ça donne envie.
Toi aussi, t'as regardé des séries d'animation Star Wars?
Oui, bah j'ai regardé la dernière, les deux dernières en date en fait. Bon, déjà The Bad Batch saison 2. Voilà. Alors The Bad Batch. On va dire que c'est un peu comme Clone Wars, sauf que c'est beaucoup plus court pour l'instant. C'est-à-dire c'est très en dents de scie, sauf que là, c'est à l'échelle d'un épisode et pas d'un arc. Parce que dans Clone Wars, c'est ce qui est moins bien, en général, ça dure sur quelques épisodes. Et il y a des arcs qui sont filés sur plusieurs épisodes. Alors que là, dans The Bad Batch, à chaque fois, il y a une histoire, à part quelques exceptions où ça se suit sur deux épisodes. Mais c'est une histoire par épisode, en fait. Et c'était déjà le cas dans la saison 1, où il y avait un peu des dents de scie, et c'est encore plus marqué dans la saison 2, autant dans les hauts que dans les bas, j'ai trouvé. Donc il y a des épisodes qui sont... Il n'y en a aucun qui est nul, mais il y en a qui sont vraiment anecdotiques, quoi. On le regarde et on se dit... ok, C'est en fait, mais après, quand on regarde la série dans son ensemble, les épisodes qui paraissent anecdotiques, c'est un peu. Je trouve que on peut les voir un peu comme des comment dire, des manières de montrer que le Bad Batch, donc le groupe qu'on suit, le groupe de clones modifiés qu'on suit, ça se passe après. Enfin, en gros, c'est la même timeline que Rebelle, mais un peu plus tôt.
Ouais, la fin de Clone Wars, quoi.
Voilà, c'est juste après l'avènement de l'Empire, qu'en gros, c'est... Oui, c'est, ça enchaîne directement avec Clone Wars. Ça se passe entre Clone Wars et Rebelles, quoi, en gros. Mm. Et donc, on suit, voilà, des clones rebelles, justement, enfin, en tout cas, qui ont échappé à l'Empire, avec une jeune clone fille. Bref, et du coup, il y a plein d'aventures. Et dans The Bad Batch, saison 2, il y a moins... une intrigue, ce que j'ai trouvé décevant par rapport à la saison 1, c'est qu'il y a moins une grosse intrigue filée que la saison 1. Ça part encore un peu plus dans des épisodes un peu inutiles, entre guillemets, pour l'intrigue générale. Mais les bons épisodes sont incroyables. Il y a, on va dire, sur la saison, il y a 6, ouais, je sais pas, on va dire 5 épisodes. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Alors, il y en a qui sont au niveau des meilleurs épisodes de Clone Wars, clairement. Il y en a qui sont au niveau des meilleurs de la vibe. Ouais, c'est pas trop la même vibe que Rebelle, donc c'est plus proche de Clone Wars. Et les meilleurs épisodes, et pour moi, c'est les meilleurs épisodes d'animation Star Wars tout confondu, quoi. Qui se tiennent tout seuls, mais en même temps, on peut pas les comprendre non plus sans le contexte général de la série. Et je les ai trouvés, mais tellement puissants, plus proches finalement de Andor parfois que le reste. Mais c'est... Ah, enfin, j'étais vraiment très très touchée émotionnellement par certains des épisodes, et donc moi je suis très attachée à cette série. Ils ont déjà annoncé la saison 3, évidemment, parce que là c'est la fin de la saison 2, ça appelle la saison 3, et je pense que la saison 3, qui devrait normalement être la dernière, elle devrait être un peu plus, maintenant qu'ils savent, je pense qu'ils finissent leur histoire, je pense, dans la saison 3, je pense qu'elle va être plus cohérente et avec une intrigue plus tenue. Mais j'ai très très hâte, et je peux peut-être préparer un menu, effectivement, pour ceux qui n'ont pas envie de tout regarder et qui veulent voir que les meilleurs.
Mais moi, je veux bien.
Mais c'est, pour moi, c'est ouais, il y a tellement des pépites que je trouvais magnifiques dans cette série, que je la conseille malgré les épisodes en dessous, quoi.
Moi, j'ai pas accroché à la saison 1. En fait, ouais, je sais pas, la petite fille, je la trouve un peu insupportable et je me suis pas attachée à elle, et du coup, forcément, il y a des passages qui sont un peu autour d'elle, etc., qui m'ont un peu blasée, et j'ai pas été jusqu'au bout. Là, la saison 2, je me suis fait spoiler sans le vouloir une intrigue, et j'aimerais voir cette intrigue, parce que je pense que ça va, effectivement, comme tu dis, ça va toucher, et il va se passer des choses, et donc ouais, il me faut un calendrier pour zapper, parce qu'il y a trop d'épisodes, et je sens que dès qu'un épisode va être en dessous, je vais pas regarder, je vais arrêter, donc ouais. Faut que tu me fasses une liste.
Ouais, je pense qu'il y a un intérêt à tout regarder, parce que il y a quand même des petites choses dans les épisodes les moins bons qui rendent encore plus impactants les bons épisodes, mais ils sont pas indispensables quand même, donc
Et t'as regardé une autre série Star Wars aussi ?
Oui, j'ai regardé Jedi Young Adventure, je sais plus comment c'est en français, les aventures des jeunes Jedi, je sais pas. Alors j'ai pas tout regardé, mais j'en ai regardé assez pour me dire je vais en parler aujourd'hui, parce que je sais pas trop à quel rythme je vais les regarder, donc autant je regarde aujourd'hui, j'irai au bout, mais je sais pas à quelle vitesse. Alors là, c'est pour le coup, c'est une série d'animation, mais vraiment orientée très jeune public. C'est le dessin animé, voilà, imaginez la vibe des dessins animés du matin qu'on regarde en prenant son petit déj, ben voilà, c'est un peu ça, que c'est comme ça que je le regarde d'ailleurs, je le regarde que dans ces cadres-là de quand je me réveille, mais c'est très 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 mignon. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe pendant la Haute République, ça se passe pendant dans le passé lointain, et donc dans l'univers des romans, de la série de romans là qui est en cours de publication, même si pour l'instant il n'y a pas de personnages qu'on voit dans les romans, mais j'ai vu une interview, il disait qu'il y allait en avoir, donc j'ai hâte de voir ça. Et on suit des younglings, enfin ils sont même pas encore padawan, je crois, ils sont vraiment tout tout jeune. Je sais pas. Je sais pas quel âge ils peuvent avoir. Après, c'est une animation très mignonne, tu vois, avec des grosses têtes, très colorées. L'animation est jolie. Franchement, c'est, même si c'est du style très, très enfant, c'est hyper coloré, très brillant. Enfin, c'est voilà. Et du coup, donc c'est cette petite groupe d'amis, apprentis Jedi, qui donc à chaque fois ont des petites missions à faire à leur niveau, quoi. C'est pas ils vont pas sauver le monde, quoi. Mm. Mais et à chaque fois, pour chaque histoire, il y a une petite morale, voilà, sur l'amitié, sur la confiance en soi, sur voilà des petites morales pour les plus jeunes, quoi, qui sont accessibles aux plus jeunes, mais qui, ouais, quand on est grand, c'est bien d'avoir de temps en temps un petit rappel que voilà, de choses très simples, d'une moralité très très simple, mais en même temps tu fais pas de mal, donc c'est feel good, c'est très mignon, c'est voilà, si vous avez des jeunes enfants, foncez. Si vous aimez des trucs adressés aux enfants, bah voilà, foncez aussi, c'est mignon. Il y a quand même une vibe Star Wars qui reste cool. On voit Yoda jeune, enfin plus jeune en tout cas, il est déjà vieux, il a déjà une canne, mais il est beaucoup plus jeune du coup. Donc voilà, si vous voulez voir Yoda avec des cheveux, allez voir cette série. Mais bon, pas grand chose de plus à regarder, à part que c'est très mignon et que, mine de rien, avec tous les nouveaux projets qu'ils ont annoncés, et notamment des projets qui vont se passer dans la Haute République, ouais, ça pourrait être marrant que des personnages qui sont introduits dans Jedi Young Adventure apparaissent un jour dans d'autres séries adultes. Ça pourrait être drôle. Donc rien que pour ça, je me dis, ah, allez, je vais regarder, j'essaie de me souvenir de ces personnages si jamais ils réapparaissent à un autre moment, dans un autre contexte complètement différent. Ça serait marrant.
Ok, je suis pas sûre de regarder ça. Je pense que je vais passer outre.
Oui, c'est vraiment... quand vous avez besoin de vous reposer, ou que vous, si vous aimez des choses vraiment très, très bébés quand même, hein, ça reste très bébé, mais c'est mignon.
Ok. Bah, moi, je vais aller assez vite sur cette dernière série que j'ai regardée sur Disney+. J'ai regardé How I Met Your Father, qui est un genre de spin-off, entre guillemets, inspiré de How I Met Your Mother, la célèbre série. Donc là, rien à voir, en fait, c'est pas du tout ni la suite, ni... Au départ, je crois, quand ils avaient parlé de faire une série comme ça, ils avaient parlé de faire le point de vue de la mère, justement. Mais là, pas du tout, hein, c'est des persos totalement différents.
C'est vrai, quand on voit le titre, ouais, on se dit, bah, ça doit être...
on se dit, ça va être le point de vue de la mère. Ouais, ouais, ouais. Non, pas du tout. Là, c'est vraiment des persos qui ont rien à voir. Et de nos jours, du coup... Et c'est mené par Hilary Duff, qui va expliquer du coup comment elle a rencontré le père de ses enfants. Donc c'est la, je sais plus comment elle s'appelle, cette actrice de Sex and the City qui joue Hilary Duff plus vieille, qui raconte à ses enfants, qui celle qui jouait Samantha Jones dans Sex and the City, pour ceux qui connaissent, le nom est sorti de la tête. Et donc elle va raconter un peu la même structure, hein, que I Met Your Mother. Donc elle raconte à son fils qu'on... Là, c'est l'inverse. C'est, on la voit, elle, et on voit pas ses enfants, contrairement à I Met Your Mother. Où... J'ai tout mélangé, là. Contrairement à la série initiale, où c'est, on voit les enfants et on entend la voix de Ted qui leur raconte, là, on voit Sophie et on entend la voix de son fils à qui elle raconte tout ça. Et donc, c'est calqué sur le même principe. On a une bande de potes qui ont des histoires d'amour, qui ont des histoires de job, qui se passe des choses. C'est exactement le même principe. C'est une série un peu comique, ça a pas du même style que Friends, hein, voilà, à ce niveau, puis des épisodes de 20 minutes comme ça. J'ai préféré quand même la première version, entre guillemets, hein, How I Met Your Mother. Que je préfère, et là beaucoup vont me taper sur les doigts, que je préfère personnellement à Friends, parce que même si j'adore Friends, que j'ai vu tous les épisodes un milliard de fois et que vraiment j'adore cette série, je trouve qu'il y a quand même des passages très problématiques. Alors, parce que c'est une série qui est vieille, hein, mais tous les passages un peu grossophobes, les passages où on se moque des cheveux frisés, enfin, il y a quand même des passages où de nos jours ça passe clairement pas. Dans How I Met Your Mother, il y avait plus ça. Parce que bon voilà, commence à éveiller aussi les cultures, les mentalités, donc forcément il y avait plus ça. Mais dans How I Met Your Mother, il y avait zéro diversité. Les mecs sont à New York, c'est une bande de blancs, tous hétérosexuels, qui rencontrent que des personnes blanches, belles, beaux, minces, musclées. Enfin, il y avait vraiment zéro inclusivité, zéro diversité. Et bah, même si j'aime, je trouve ça léger, j'aime bien et tout, il y avait quand même une part de moi où je me dis, on est à New York, les gars, vous avez déjà mis les pieds à New York. Enfin, voilà, il y a un souci, quoi. Et en fait, How I Met Your Father, bah, des fois, c'est un, on a l'impression que c'est un peu poussé, genre vraiment, regardez à quel point on est inclusif. Mais, enfin, surtout dans la première saison, là, c'est la deuxième qui vient de sortir et que j'ai regardé ce mois-ci. Maintenant, ça le fait beaucoup moins. Et en fait, c'est juste une série, bah, hyper inclusive. Il y a plein de nationalités différentes. Il y a la sœur du héros principal, même si elle est insupportable, elle est lesbienne. On rencontre plein de gens divers, variés. C'est des thématiques modernes, actuelles, qui nous touchent. Les héroïnes, eh bah, elles ont un peu de ventre. Ouais, quand elles s'assoient, on voit leur bourrelet. Enfin, c'est des trucs un peu cons, hein. Mais, moi, ça me fait du bien de voir une série fun, légère, avec des personnages où je me sens plus proche d'eux que dans Friends, quoi, où ils ont pas, où je, quand je les vois, je me dis non, c'est pas ma vie, c'est une série, ouais, c'est sympa, c'est drôle, mais c'est pas réaliste. Donc voilà, je trouve que c'est pas encore la série, voilà, elle arrive pas au niveau de ses grandes sœurs et ses grands frères à ce niveau-là, parce que peut-être l'intrigue est pas non plus, il se passe pas non plus grand chose, je suis pas attachée émotionnellement vraiment au personnage, et puis, mais je trouve que elle a le mérite d'exister, il y a des belles qualités, et je pense qu'elle marche, hein, donc elle va continuer. Je regarde les épisodes avec impatience, c'est chaque semaine, et je pense que ça peut que s'améliorer et en devenir, et devenir une vraiment très bonne série.
Cool. Bon, c'est clairement pas le genre de série que je regarde.
Non, c'est pas ta cam.
Ouais, non, bah j'ai essayé Friends trop tardivement, je pense. J'ai pas grandi avec, donc voilà. How I Met Your Mother, j'ai dû regarder quelques épisodes, mais non, c'est pas...
Mais tiens, en parlant d'inclusivité, rien à voir, je fais je digresse un peu. Tu sais, on avait fait un épisode sur In the Heights. Je l'ai revu là dans l'avion, et en fait ça doit faire la quatrième ou la cinquième fois que je le revois, et en fait on avait parlé déjà du titre, le d'où l'on vient, qui me perturbait, que je trouvais pas très cohérent. Plus je vois le film, plus je me dis en fait ce titre est parfait. C'était, fallait juste que je fasse un mea culpa là-dessus. Vraiment, plus j'ai vu le film, plus je me dis en fait ça colle trop avec le d'où l'on vient, nos origines, mais d'où l'on vient, notre quartier, enfin. Et en fait il y a des petites phrases, et en fait je me dis j'ai râlé en mode ils sont encore en train de nous trouver un truc à la con pour, ils sortent juste de traduire un titre parce qu'il est trop anglophone. Et en fait quand je revois le film, à chaque fois je me dis ça colle tellement bien.
Ouais, non, t'as raison, c'est vrai. Ouais, non, mais effectivement c'est une bonne manière de le voir, parce que ça aurait rien c'est vrai qu'In the Heights pour un français, un francophone.
En français, ouais, ça connaît. C'est ça, tu connais pas. Donc non, je me dis, en fait, voilà, mea culpa, avec le recul, je valide le titre. Et le deuxième truc, on avait parlé très très vaguement, parce qu'on voulait pas rentrer dans les polémiques, du fait que Lin-Manuel Miranda avait été accusé de colorisme. Je sais pas si tu te souviens.
Oui.
Parce que, effectivement, il y avait pas assez de hispanique avec la peau noire. Ouais. Et je m'étais dit, oh, c'est abusé, franchement, c'est un casting full hispanique, je comprends pas pourquoi on l'attaque alors que justement il essaye de faire quelque chose de d'inclusif. Et en fait, en étant au Panama, on va dire que là, dans les trois zones où j'ai été, sur deux zones sur trois, parce que je me suis pas mal baladée en fait, 90% de la population a la peau vraiment très noire. Et je me suis dit, je comprends quand tu viens de ce genre de pays et que qu'on te montre, regardez les Hispaniques qui sont partis en Amérique, voilà, ils vivent tous là, et que tu vois que des personnes à la peau très claire, tu te dis, vous avez quand même oublié plus de la moitié de la population, en fait. Et sur le moment, vraiment, ça m'a fait tilt. Quand j'ai revu le film dans l'avion, je me suis dit, ah ouais, en fait, je retrouve pas la population que j'ai vue au Panama, et du coup, même si je pense que Lin-Manuel Miranda l'a pas fait volontairement, il l'a fait parce qu'il a casté, il a pris déjà certains de ses copains qu'il connaissait, des comédies musicales, il a pris après peut-être les acteurs qu'il a mieux senti, hein. Je pense vraiment pas qu'il ait fait exprès à ce niveau-là, mais c'est vrai que quand tu vois le film et que tu, en étant en Amérique centrale, tu te dis, ouais, c'est sûr, c'est pas représentatif, voilà. Et je voulais juste le dire parce que que
non, mais c'est important.
Je ne m'y attendais pas du tout et...
Non, bah, voilà. Non, bah, merci pour le retour, parce que c'est vrai qu'on, c'est pas une perspective que, enfin, nous, c'est facile, hein, de point de vue de petite française blanche, de dire, oh là là, quand même, mais en fait, effectivement, se décentrer un peu, c'est pas mal.
Ouais, exactement. Bon, désolée pour ce petit écart, mais il fallait que j'en parle. Et on va pouvoir passer à nos séries sur Prime.
Alors, j'ai regardé une série sur Prime que... Bon, en fait, c'est arrivé... Enfin, c'est un peu comme Shadow and Bone. C'était un truc que j'attendais pas mal et que j'avais vu la première saison. Là, c'était la saison 2 qui arrivait. Donc, c'est Carnival Row. Alors, on a attendu longtemps la saison 2 parce que la première saison, elle est sortie... Je sais plus si c'est 2019 ou 2018, mais...
Ah oui.
Ouais, je crois que c'est au moins 2019. Donc, en fait, avec le Covid, ils ont eu beaucoup de mal à produire la deuxième saison. Et d'ailleurs, je crois qu'ils avaient quand même... Enfin, quand on regardait la saison 1, on se dit « Waouh !» C'est, donc là, pour le coup, c'est un univers complètement original. C'est de la fantasy encore. Mais c'est complètement original. C'est pas une adaptation. Et c'est un univers, pour le coup, original, justement, avec toute une mythologie autour. Encore une fois, c'est pas de la fantasy médiévale, pas du tout. C'est la fantasy un peu urbaine, période industrielle. C'est pas du steampunk, mais voilà, il y a cette ambiance, il y a vraiment cette ambiance du 19e siècle dans les costumes, dans l'industrie, développement. Enfin voilà, c'est assez différent. Et il y avait vraiment une mythologie, un contexte politique très très intéressant qui était posé dans la saison 1 et qui annonçait quand même une saga, quoi, qui annonçait quelque chose de qui pouvait être développé sur beaucoup de saisons avec plein d'intrigues, etc. Et malheureusement, saison 2 sera la dernière. Mais bon, ils l'ont su avant de la produire, donc au moins ils ont essayé de clore une histoire, qui se tienne dans la saison 2. Mais je trouve que ça se sent quand même qu'ils ont dû pas rusher, parce que je pense qu'ils ont mis tellement de temps à la produire c'est fait en sorte qu'on n'a pas l'impression qu'il y a des grosses coupes. Ça a été écrit pour être comme ça, mais c'est frustrant. Moi, j'ai trouvé ça très frustrant, ouais. Parce que c'est dommage, c'était hyper ambitieux. Visuellement, c'était vraiment pas mal, même si les effets numériques, c'est pas non plus une série qui a le budget de Game of Thrones. Donc, c'est pas parfait. Mais tout ce qui est, par contre, effets pratiques, les sets, tous les détails qu'il y avait, et les maquillages, parce qu'en gros, c'est un univers où on a des humains et les fées, entre guillemets, qui sont en fait des peuples, donc c'est les fées en anglais, mais ouais. c'est pas que les fées. Il y a les fées, mais il y a aussi des faunes, il y a des centaures un peu, ouais, enfin il y a plein de types de créatures, enfin d'êtres magiques qui sont là, mais qui sont en fait dans cette ville, qui sont ils sont traités. En fait, ça traite de racisme envers ces populations fées qui sont un peu, qui ont été exclues, enfin qui à cause de guerre sont des immigrés en fait, et ils sont un peu cantonnés dans un ghetto. Et il y a un contexte politique qui était déjà dégradé, mais qui devient de plus en plus tendu dans la saison 2, où vraiment le ghetto est à la fin de la saison 1 est fermé. Donc il y a une séparation entre les humains et les autres, et on suit une fée qui est très donc c'est Cara Delevingne qui est très très révolutionnaire, qui est dans les un peu les groupes de résistance, limite terroriste parfois, enfin pas limite, carrément terroriste parfois. Et on a le personnage d'Orlando Bloom qui est alors je spoil la saison 1, mais bon, on l'apprend quand même très vite, qui est Mix, sa mère est fée, mais il a grandi en cachant, enfin on lui a retiré ses ailes, il vit comme un humain et il le cache, son origine fée. Et donc c'est une histoire d'amour entre deux, et lui il est inspecteur aussi, donc en parallèle il y a un peu une ambiance, tu sais, de meurtre un peu à la Lovecraft, ou un peu au roman gothique, de meurtre un peu bizarre, surnaturel, on sait pas trop ce qui se passe. Et donc il y a des moments qui font un peu peur, avec des monstres, etc. Mais c'est quand même très politique. Il y a quand même un angle.
Ouais, ça me tente bien.
Ouais, franchement, moi je trouve que il y a beaucoup d'ambition. Je trouve que la saison 2, elle se tient pas aussi bien que la saison 1, parce que ils ont essayé de faire trop de choses, je trouve. Mais il y a quand même des intrigues qui sont hyper poussées, mais peut-être un peu trop ambitieux. Mais tu vois, j'ai du mal à dire que c'est un défaut, tu vois, de dire ils ont essayé d'en faire trop. Mais effectivement, ça rend les choses un peu pas toujours très très solide. Le personnage de Orlando Bloom est un peu décevant dans la saison 2, j'ai trouvé, par rapport à la saison 1, alors que bon, c'était quand même ma motivation pour regarder la série, outre l'univers, mais voilà. Mais il y a d'autres personnages qui sont très cool. Enfin, en fait, je trouve que le duo au cœur était plus intéressant dans la saison 1 que la saison 2. Par contre, il y a des personnages secondaires qui sont, que j'avais trouvé hyper intéressants dans la saison 1 et qui, là, pour le coup, ont des chouettes intrigues dans la saison 2. Il y a beaucoup de choses nouvelles, c'est pas du tout de la redite, mais c'est ça qui est frustrant, c'est qu'on voit qu'ils avaient tellement d'idées. Et voilà, donc c'est quand même une fin qui est une belle fin, donc c'est une vraie fin. Donc on n'a pas la frustration de se dire « Ah, il aurait fallu une suite », ils ont réussi à écrire une vraie fin. Mais c'est quand même décevant qu'une série avec cette ambition-là... on lui a pas donné plus de temps. Ouais.
Ok. Je pense que je la rattraperai.
Ouais, bah en plus, là, pour le coup, histoire d'amour présente.
Non, là, j'avais pas forcément besoin de l'histoire d'amour. Orlando Bloom m'avait suffi.
Oui.
Mais
Orlando Bloom, je sais qu'il s'est fait un peu bâcher là, sur la saison 2, parce qu'effectivement, il y a des passages où... son jeu n'est pas vraiment à la hauteur. Et c'est vrai que moi, j'avais énormément défendu parce que je trouve que, voilà, on le caricature comme un mauvais acteur, alors que ce n'est pas toujours le cas. La saison 1, il est très bon dedans. La saison 2, ça dépend des moments.
Ouais, mais il faut que le réalisateur soit aussi... voilà.
La direction d'acteur
est... Oui, la direction d'acteur est très importante. Hein. Ouais. Je vois ça avec mes élèves, là, quand on fait le film... si tu les guides pas, si tu leur dis pas comment faire, si tu les... Et c'est trop marrant parce qu'il y a des... On diffuse du coup le film avec mes élèves la semaine prochaine et ils m'ont écrit le petit texte qu'ils voulaient lire sur scène pour présenter leur film. Et à la fin, c'est « Merci à Madame Mera de nous avoir guidés et de nous avoir poussés à donner le meilleur de nous-mêmes. » Je dis « Oui, c'est chou. » Mais oui, t'as besoin de guider, tu vois. Si ton réalisateur, il te l'a joué mal, enfin, typiquement, la mort de Marion Cotillard dans Batman, on n'arrête pas de lui dire que c'est de sa faute à elle. Mais elle n'était pas derrière la caméra, elle n'a pas vu le rendu, quoi. Ouais. Faut lui dire « Non, regarde, c'est moche, on va faire autrement. » Enfin,
ouais, non, c'est clair.
Mais bon, bref.
Ouais. Mais Orlando Bloom portait cette série. Hein. Il est des producteurs.
Ouais.
C'était un truc où il était très, très engagé. Donc, je pense que... Moi, je l'ai vu un peu dans la manière dont il en parlait. Je pense qu'ils étaient tous un peu déçus, quoi, de s'arrêter là. Mais par contre, ils étaient quand même contents d'avoir réussi à faire cette saison parce que c'était un enfer, hein, apparemment, pour réussir à la produire. Donc, voilà. Mais okay. Carnival Row, quand même. Voilà. Bon, si vous n'avez jamais commencé, ça vaut le coup. Maintenant, c'est fini. Il y a deux saisons, ça se regarde vite. Et c'est vraiment original. Et pour une fois qu'on a un truc de complètement original, de fantasy, c'est... Ça fait plaisir, quoi. Et de sérieux, quoi. C'est pas... C'est adulte, hein, pour le coup. Par contre, c'est très adulte. Il y a pas...
OK.
C'est pas du tout léger.
Alors, moi, sur Prime, j'ai vu deux séries. La première, c'est The Sex Lives of College Girl, qui est une série où on suit quatre jeunes femmes qui rentrent à l'université, dans une université assez prestigieuse, et on va suivre effectivement leurs histoires d'amour, leurs histoires de galères de fac, leurs amitiés, etc. Et il y a certains passages qui sont quand même assez clichés, hein, c'est pour ça que je dis on suit leur histoire d'amour, machin. Ça reste des histoires qui sont voilà, pas hyper original, en tout cas au niveau de l'intrigue, sur la plupart des histoires. Mais on s'attache pas mal aux filles. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est quelque chose qui me parle, moi, dans les séries. Hein. Ça reste très moderne dans le sens où y a certains moments où je me suis vue, moi, à l'université, quoi. Alors, pas exactement, parce que en France, on vit pas vraiment sur le campus, mais certaines histoires ou certaines galères, etc., tu te dis « Ah ouais, ça aurait pu m'arriver » ou « Ah ouais, ça m'est arrivé ». Donc, je trouve ça assez sympa. Et en fait, là où j'ai vraiment accroché, c'est parce qu'il y a certaines thématiques, certaines histoires qui sont, je trouve, très bien amenées et très bien exploitées. Je spoil un peu parce que c'est pour aussi donner envie de la regarder. Il y a, par exemple, il y en a une qui fait partie du journal comique de l'université. Et elle va se retrouver à être agressée sexuellement par un des mecs. Et alors, en fait, c'est pas tout de suite, souvent, dans les séries, dès que c'est agression sexuelle, c'est viol, ou voilà, ou ce genre de choses. Et là, pas du tout. C'est en fait des petites choses qu'on peut paraître minimes, Par exemple, juste le mec se frotte derrière la fille, en fait, dans son dos, alors qu'il est habillé, hein, mais en fait, oui, c'est une agression sexuelle. Et en fait, le fait que dans cette série, bah, tout ça est normalisé, en disant, c'est tout de suite, les mots sont posés, des conséquences sont prises, etc. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment génial, parce que c'est pas souvent. Et donc, la fille, bah, va tout de suite en parler, va porter plainte, il va y avoir des choses, il va y avoir du coup, ça parle aussi de sexisme beaucoup. Et en fait, voilà, il y a certaines thématiques qui sont, je trouve, très bien amenées, très bien exploitées. D'autres un peu clichés, mais c'est pas dérangeant. En tout cas, je trouve que on se laisse vraiment prendre à la série. Il y a que 2 saisons pour l'instant. Il y a une 3e qui sort cette année normalement. Voilà, c'est très sympa à regarder. On s'attache beaucoup au personnage. Et petit bonus, alors j'ai un peu une mal avec son personnage, mais en tout cas, il joue très bien. Il y a la grande sœur de Timothée Chalamet qui joue dedans. qui s'appelle Pauline Chalamet, voilà. Mais moi, bon, j'ai pas particulièrement aimé son personnage, pas son jeu d'acteur, mais son personnage. Moi, j'ai été vraiment, par contre, hyper emballée par Amrit Kaur, qui est une actrice canadienne d'origine indienne, je crois. Il me semble, j'ai un doute, mais qui est très très drôle et que j'ai beaucoup beaucoup aimé la suivre. Et voilà, je recommande vraiment cette série parce que je la trouve très sympa et très assez légère, mais en même temps, voilà, en abordant des thématiques importantes et d'une belle manière, quoi.
Cool. Non, mais c'est bien. J'ai l'impression que ça se développe de plus en plus ce type de série. Enfin, en tout cas, sur ce ton-là, j'ai l'impression qu'il y en a que ça commence et qui traite bien les sujets-là. Donc, tant mieux. C'est cool. Bon, je sais pas si je l'ai regardé, ouais, mais c'est cool.
Oui, non, c'est pas ton style, hein. C'est clairement pas ton style, mais mais ouais, si vous.
Non, vas-y, finis.
Non, c'était tout.
Non, je voulais faire la transition. J'ai par contre l'autre, j'en ai tellement entendu parler, j'ai vu tellement de hype de ouf que je pense que je vais m'y mettre, mais du coup, j'essaie de pas trop en. Enfin voilà, je sais pas exactement de quoi ça parle, mais quand j'ai vu la hype sur le Discord, je me suis dit. Bon, que je la regarde cette série.
Ouais. La dernière série donc on va parler aujourd'hui, alors je vais essayer de pas trop te spoiler, enfin de t'en dire trop, hein, mais
oui, bon, je regarderai dans tous les cas, mais
oui, mais j'ai hâte d'avoir ton avis parce que il y a eu beaucoup de débats sur le Discord, on n'est pas tous d'accord, ouais. Et donc il s'agit de Daisy Jones and the Six, donc qui suit voilà un groupe de musique et qui s'est formé. Et qui s'est séparé. Et alors en fait, ce que j'ai adoré, c'est que c'est tourné un peu comme un documentaire. C'est-à-dire, on les voit eux plus tard, il va parler à une caméra et raconter en fait ce qui s'est passé dans le passé. Et ensuite, on a des flashbacks du coup du passé, de comment ils se sont rencontrés, comment ils ont créé la musique et toutes leurs déboires et comment à la fin ils vont se séparer. Hein. Donc on comprend assez vite hein, qu'ils sont séparés. Enfin, c'est dit dès le début. Et donc, ce format-là, j'ai trouvé ça hyper original parce que t'as vraiment l'impression que c'est vrai et qu'il raconte, que c'est un documentaire et c'est top. Alors, faut savoir, c'est inspiré du groupe Fleetwood Mac, voilà, de leur histoire. Alors, moi, je le connais grâce à Glee, hein, ce groupe, hein, je t'avoue. voilà.
C'est son ambiance années 70, c'est ça, hein?
Ouais, c'est ça, c'est dans les années 70. Moi, je l'ai regardé au départ parce que ça, j'aimais bien cette ambiance années 70, j'avais entendu un peu la musique et j'aimais beaucoup la musique. C'est un très très gros point fort de la série, la musique est exceptionnelle. L'actrice principale est la petite fille d'Elvis Presley et elle a un charisme, une aura incroyable et une voix magnifique. Donc c'était pour toutes ces raisons que je l'ai regardé et j'ai beaucoup aimé, hein. J'ai des bémols. Je veux parler des bémols parce que je trouve que enfin, je trouve que c'est important parce que c'est vrai que cette série, elle est souvent encensée. Et en fait, moi, j'ai entendu parler de cette série grâce à avant d'en parler sur le Discord, que Clem en parle sur le Discord, pardon, sur Tokyo Banbao, qui est une fille sur Insta et qui recommande beaucoup de films, etc. Et j'aime bien souvent ce point de vue, sa manière d'expliquer un petit peu, voilà, les films, de présenter les séries, etc. Et je suis assez souvent d'accord avec elle, pas toujours, mais assez souvent. Et là, vraiment, elle lançait la série en mode c'est génial, vraiment, regardez-la, je suis devenue tellement accro. Donc je l'ai regardée, moi j'y ai trouvé des défauts. Et en fait, quand je suis retournée sur le post pour voir un peu ce que les gens en pensaient, dès que quelqu'un mentionne un petit défaut, j'ai l'impression que tout le monde lui tombe dessus en disant « mais non, c'est totalement faux, mais non, et tout ». Et du coup, j'étais là « ok ». Et Je vous adore, hein, Clem et Cédric, c'est pas le souci du tout. Mais pareil, quand j'ai commencé à donner mes impressions de défaut, j'ai eu l'impression de faire un débat des fois pour justifier pourquoi il y avait certains points que j'aimais pas et qu'on était en train de me dire non, mais non, t'as mal compris, c'est pas comme si, c'est comme ça. Et en fait, ça me dérange un peu. Alors c'est pas du tout contre vous parce que je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, mais j'ai vraiment cette impression sur cette série et ça s'est vraiment ressenti sous le poste de Tokyo Banbao que c'est la série où il faut pas dire de mal. Mmh. Et moi, je sais que je l'ai recommandé à Edwige parce qu'il y a un couple queer dedans et qu'elle aime bien regarder des séries où il y en a. Et elle m'a dit « j'accroche pas, quoi. C'est lent au début. Est-ce que ça devient... » Je crois qu'elle m'a sorti un truc genre « Est-ce que ça devient bien ?» ou « Est-ce que c'est quelque chose au bout d'un moment ?» Et je me suis dit « En fait, oui, il y a quand même des défauts. Le rythme au début, je l'ai trouvé assez lent. En fait, il met du temps à se rencontrer, Daisy Jones et le groupe. Et moi, j'attendais que ça, qu'ils soient ensemble. Donc, j'ai eu un peu de mal aussi à accrocher au début. Et je trouve aussi que le mec, t'inquiète pas, ça te spoil pas, hein, mais on comprend dès le début qu'il a des problèmes de drogue, d'alcool, etc. Et je trouve que il y a certains de ses comportements qui sont un peu encensés, entre guillemets, enfin glamourisés.
Encore une fois.
certaines décisions qu'il prend, sans l'expliquer, mais certaines décisions qu'il prend, et on en reparlera, je pense, en tête à tête quand t'auras vu la série, je trouve que sont un peu dit c'est la bonne décision, c'est bien ce que tu fais, alors que je trouve pas. Et ça m'a un peu dérangée. Alors j'ai bien compris qu'il y en a qui trouvent pas du tout que ce soit montré sous cet angle-là, mais moi c'est vraiment quand j'ai regardé la série, personnellement, cette sensation que j'ai eue, et ça m'a un peu dérangée. Et la fin a été bâclée, je trouve, personnellement aussi. Elle va très rapide et il paraît que c'est parce que à cause du Covid, pareil, ils ont dû couper. Enfin, je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas. Mais du coup, j'ai ressenti un peu une frustration à la fin. Voilà. Donc je la recommande, hein, quand même, hein, parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé cette série. J'ai passé un très bon moment devant. Vraiment, j'ai encore les images en tête. J'écoute encore la musique actuellement. Mais je trouve qu'il y a quand même des bémols et qu'on peut pas dire aux gens non, ne ressens pas ça. Voilà.
Oui, oui, oui. Bah de toute façon, je trouve que c'est toujours toujours important, surtout quand il y a une série qui fait plus ou moins l'unanimité, ou dans l'autre sens aussi, hein, dans une série où genre tout le monde la bâche et quelqu'un dit « Ouais, j'ai bien aimé. » Non, t'as tort de ressentir ça, t'as le tort de penser ça. Je pense qu'il faut toujours faire gaffe. Faut toujours faire gaffe parce qu'on, mais c'est un réflexe, hein, qu'on a quand on est vraiment investi dans une émotion, que ce soit en positif ou en négatif sur un truc, évidemment qu'on a envie que tout le monde pense comme nous.
Ah oui, mais je suis la première à le faire.
Oui, moi aussi. Hein, je pense que, en plus, on aime bien débattre, voilà quoi. Donc, ouais. Mais après, faut faire attention, surtout quand on est dans la majorité à penser la même chose, de faire attention aux avis minoritaires ou alors aux avis qui sont moins représentés, de pas les décrédibiliser et voilà, tout ce qu'on ressent, c'est valide, comme on dit. Hein, et puis, ça peut venir de plein de raisons différentes de ressentir un truc d'une manière ou d'une autre. Donc ouais, non, j'ai hâte de regarder ça. Enfin, je pense que là, je me remets... J'ai eu une période, je disais dans le dernier épisode, une période où je regardais rien. Là, j'ai enchaîné quelques petits trucs. Je me remets dans une vibe où j'ai envie de regarder des choses et de plus ou moins les binger. Je pense que je vais m'y mettre dans pas longtemps, cette série.
Super. Bah écoute, dans un prochain épisode, tu pourras nous dire ce que tu en penses.
Bon, bah on avait dit, ça sera moins d'une heure.
Oh, c'est quasiment, quasiment une heure.
On y est. Mais ouais, non, mais après, on avait pas une énorme quantité, mais on avait envie, je pense qu'à chaque fois, on avait des choses à dire sur les choses, donc qu'on a gardé dans la liste. Donc on a bien fait d'y consacrer un épisode à part, je pense.
Oui, ah bah sinon l'épisode aurait vraiment duré 2h30, 3h, quoi. Donc
c'est ça.
Ça aurait été compliqué, ouais.
Ouais. Mais il y a des chances que, bah du coup, comme on est un petit peu en retard sur le zapping d'avril, il y a des chances qu'on essaye de faire un zapping dans pas si longtemps pour parler de nos visionnages de mai. Vous allez nous.
Lui, il sera court.
Oui, il y a des chances effectivement. c'est vrai que niveau cinéma, il y a eu moins de grosses sorties là, donc ça arrive, mais. Et peut-être que... Moi, en tout cas, je crois que cinéma, je vais avoir un peu moins de choses à...
Ouais, moi aussi.
Mais en tout cas, on espère que ça vous a plu. Et vous l'avez compris, on a beaucoup cité le Discord, mais c'est là que ça se passe. Si vous aimez nos épisodes, en particulier les zappings, c'est sur le Discord que ça se passe, où tout le monde parle au fur et à mesure de ce qu'on voit, de nos avis, de les recommandations. Si vous n'y êtes pas encore, rejoignez-nous sur le Discord. Et puis voilà, on n'a pas encore de projet, je crois, d'autres épisode spécifique que le zapping, mais si vous avez des idées ou si vous avez envie qu'on parle plus de Star Wars, bah, au hasard.
Au hasard. Bon, on était censé faire des épisodes quand même sur certains réalisateurs. Hein. Oui. Je dis ça, je dis rien.
Ça fait.
Faudrait qu'un jour on s'y mette.
Genre Spielberg.
On avait parlé de Guy Ritchie aussi,
ouais,
à un moment.
Tarantino, ça, j'en ai pas mal parlé la dernière fois, mais il y a tout à faire.
Non, faut trouver le temps en fait. C'est
ça,
juste ça.
C'est ça.
Bon, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Et puis, écoutez, on se dit à très bientôt.
À bientôt.